Emmanuel Bove, ce que j'ai vu. Je n'écris pas souvent, ainsi, au courant de la plume. Il faut que quelque chose de vraiment grave me soit arrivé pour que je me décide à le faire. Aussi vous demanderai-je, cher monsieur, d'être indulgent. Ce n'est pas un auteur qui se trouve en face de vous, c'est un homme qui souffre et qui cherche le mot qui lui expliquera tout. Je m'étais remis tout doucement du grand choc que j'avais reçu. Tout allait bien, je reprenais courage, et voilà que subitement, je doute de nouveau. Dire pour quelle raison l'inquiétude m'assaille serait impossible. Elle est revenue toute puissante sans que j'y fusse pour quelque chose. J'étais chez moi, en train de lire un livre, lorsque, sans cause apparente, je compris que je ne m'étais pas trompé. Je tentai alors de ne plus penser à cela, mais vous savez bien que plus on s'efforce d'oublier un malheur, plus il s'attache. Oui, je lisais un livre qui m'intéressait autant qu'un livre peut le faire. J'étais plongé dans ce roman au point d'oublier où je me trouvais, quand tout à coup, tournant une page, je dois dire, pendant cette seconde d'inattention qui, à chaque feuillet, coupe un récit, il m'apparut clairement que je ne m'étais pas trompé. J'ai vu la chose, de mes yeux vus, par conséquent, c'est vrai. Ma chère amie avait beau nier, puisque je l'avais vu, c'était vrai. Tout autour de moi prouve que je me suis trompé. Mes amis, à qui j'ai eu la faiblesse de raconter cette histoire, m'ont donné tort. Les parents de mon ami m'ont laissé entendre que je n'avais pas toute ma raison. Mon Henriette, elle-même, après s'être défendue avec colère, a fini par hausser les épaules chaque fois que je lui parlais de cette scène. Aussi suis-je parvenu, à force de le vouloir, à douter de mes propres yeux. Petit à petit, j'ai oublié ce que j'avais vu. Je me suis imposé de penser que je m'étais trompé. La vie redevenait supportable. Mon ami était de plus en plus tendre. Et voilà que, d'une manière idiote, je recommence à penser à cette histoire. Tous mes efforts auront donc été vains. La laborieuse et salutaire évolution qui m'a donné la paix n'aura servi de rien. Bêtement, je me retrouve inquiet et désespéré comme au premier jour. Pourtant, je crois que je me suis trompé, que mon amie est innocente, que j'ai été victime d'une hallucination. Je veux croire cela, bien que mes yeux m'empêchent de le croire. Mais je sens que, malgré tous les efforts que je peux faire, j'aurai toujours devant moi cette vision stupide qui me fait tant de mal. C'est pour cela que je vous écris. C'est pour ne pas être seul avec mes soupçons. C'est pour que vous me donniez, peut-être, un conseil. Je dois vous avouer que j'éprouve le besoin de m'excuser d'écrire. Quand un homme souffre comme moi, écrire ne devrait pas être une consolation. Excusez-moi, cher monsieur, de vous parler ainsi. Vous n'êtes pas habitué à de tels aveux. Ils vous apparaissent comme un artifice pour retenir votre attention, alors qu'en réalité, ils sont la preuve d'un profond désespoir. C'est vrai, j'éprouve une sorte de gêne d'écrire. Et je sais que je ne devrais pas vous le dire. Avec raison, on n'admet jamais que celui qui nous écrit le fasse à contre-cœur. Si, au théâtre, un acteur venait me dire qu'il n'a pas envie de jouer son rôle, que cela l'ennuie, je dois avouer que, comme tous les spectateurs, je le sifflerais. Mais ici, sachez que le cas est différent. Je souffre autant qu'un homme peut souffrir. Et je n'écris pas pour vous distraire, ni pour vous intéresser, mais simplement pour vous demander ce que je dois faire. Je vous exposerai les faits, un à un, d'une façon claire. Je vous dirai tout ce que je sais sur mon ami, et je vous demanderai après de me dire si je me suis trompé ou non. Je m'adresse à vous parce que, étranger à ce conflit, vous le jugerez avec impartialité. Mes parents, mes amis, ont intérêt à ce que tout s'arrange. Ils me connaissent, ils savent que je suis très impressionnable. Et ils me croiraient moins que vous qui ne me connaissez pas. Puisque vous consentez à m'entendre, il faut que vous sachiez avant tout ce qui s'est passé. Vous voyez bien, au ton de ce qui précède, que je suis un homme sincère, que je ne mens pas. Je vous supplierai donc de ne pas penser, pendant que je vous raconterai cette histoire, qu'il est nécessaire, avant de se faire une opinion, de connaître la version de mon ami. Ce sont les tièdes qui veulent connaître le pour et le contre afin de ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous demanderai donc de ne juger cette histoire qu'au travers de ce que je vous dirai, sinon vous me feriez beaucoup de peine. Je vous conterai le récit que vous allez lire comme si je n'en étais pas le héros. Je n'y mettrai aucun parti pris. Au contraire, je passerai sous silence tout ce qui est à mon avantage. J'étalerai au grand jour tout ce qui est à l'honneur de mon Henriette. Vous voyez bien que je ne demande qu'à avoir tort. Je vais donc commencer. Faites bien attention, ne sautez pas plusieurs lignes, car c'est de mon bonheur qu'il s'agit. Une autre fois, je vous écrirai une longue lettre pour vous distraire, une lettre pleine de fantaisie et de jeunesse. Si elle vous agace, ne la terminez pas. Cela n'aura pas d'importance. Mais aujourd'hui, je vous en supplie, faites attention. Au risque de me répéter, je vous dirai encore que mon bonheur est entre vos mains. Mon amie est d'une douceur angélique. Je dois vous dire que si elle était pure quand elle s'est donnée à moi, elle n'a pas attendu que nous fussions mariés pour s'abandonner, et cela, je suis assez large d'esprit pour ne pas le lui reprocher. Ce serait un moyen de justice humaine que de me servir de cela pour la rabaisser à vos yeux. Croyez-moi, je ne vois en cette preuve d'amour rien qui puisse faire prévoir ce que ma chère Henriette a fait. Si elle s'est donnée à moi sans que nous fussions mariés, c'est de ma faute. Mille signes me prouvent que mon amie m'adore. Elle m'a pardonné ce que beaucoup de femmes ne m'auraient pas pardonné. Bien qu'elle soit belle, elle a compris que la faute de l'homme n'est pas si grave que celle de la femme. Elle ne me l'a naturellement pas dit, mais j'ai senti qu'au fond d'elle-même, elle le savait. Quand, jadis, je fis ce que je n'aurais pas dû faire, ce n'est pas à moi qu'elle en voulut. Ce fut à la nature même de l'homme, et ce détail seul montre la grande bonté de mon amie. Il est d'autres signes qui font qu'elle est pure à mes yeux. Les autres hommes n'existent pas pour elle. Je crois discerner, à certains détails, à certaines attitudes, qui lui font la même horreur physique qu'à moi. Elle dit souvent d'un homme exactement ce que je dirais si j'étais une femme. Cela, si elle ne le ressentait pas, elle ne pourrait l'inventer. Et c'est aussi une raison qui fait que je l'aime tant. Parfois, je lui ai demandé ce qu'elle ferait si je perdais une jambe. Elle a toujours répondu avec feu qu'elle m'aimerait autant. Que l'on m'excuse de donner de tels détails, mais quand on veut prouver qu'une femme vous aime, ils sont nécessaires. Il est encore autre chose qui prouve son amour, c'est l'admiration qu'elle a pour moi. Tous mes jugements sont les siens. Et quelquefois, quand je n'ai pas fini de donner mon avis sur un sujet et que, gênée par mon élocution difficile, elle termine pour moi d'une façon différente de celle que je pensais et qu'elle s'en aperçoit, elle se reprend vite, quitte à se contredire, jusqu'à ce que je l'approuve. N'est-ce pas la marque d'un grand amour que de faire preuve d'une telle abnégation de soi-même? Croyez-vous que si mon Henriette adorée ne m'aimait pas, elle suivrait ainsi, pas à pas, ma pensée? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Il y a tant de choses qui, à chaque instant du jour et de la nuit, me montrent son amour. Quand nous sommes couchés côte à côte, c'est toujours moi le premier qui m'écarte d'elle. Les bonbons, les gâteaux, les fruits, elle s'en prive toujours pour me les donner, et quand je les refuse, parce que je sais qu'elle est gourmande, elle insiste avec tant d'amour que ce serait la blesser que de persister à refuser. Rien pour elle n'existe. La vie entière, elle la voit à travers moi. Et quand elle vient en retard à un rendez-vous, ne pensez pas que cela soit par coquetterie. Elle veut imiter les autres femmes. Elle s'impose ce retard parce qu'elle est femme et que, par moments, elle craint de ne pas l'être assez et de me perdre à cause de cela. Non, mon Henriette, tu n'as pas fait cela. Et pourtant. Un jour, elle m'a demandé si, loin d'elle, je n'avais pas le sentiment de m'avoir pas été aussi gentil que j'aurais pu l'être. Machinalement, j'ai répondu non. Car comment discerner dans une question posée sur un ton ordinaire tout ce que l'on attend de votre réponse? Elle a été un peu triste. Elle n'a rien dit sur le moment, mais dans la soirée, elle m'a dit que je n'étais pas gentille, que je ne l'aimais pas autant qu'elle le faisait. Elle a ajouté que, chaque fois qu'elle me quittait, elle avait toujours l'impression de ne m'avoir pas assez fait plaisir. Souvent, elle me rappelle des propos que j'avais oubliés et auxquels elle a longuement pensé sans que je m'en doute. Sa petite tête travaille continuellement à me rendre heureux. Près d'elle, comme près des petits-enfants, je ne parle jamais de la mort. Mais je sens bien que si je lui disais de mourir avec moi, elle le ferait. Elle me l'a laissé entendre sans prononcer, par pudeur, le mot « mort ». Maintenant que vous connaissez mon amie, d'après ce que je vous ai dit d'elle, je vous demanderai de croire à ce portrait. Tout le monde ne vous dira que du bien d'elle. Ce n'est pas l'amour qui déforme mon jugement. Elle est ainsi faite. Et s'il est difficile de croire au portrait qu'une seule personne fait de quelqu'un, il est moins de croire à celui d'un grand amour. Vous la connaissez bien à présent, ou du moins vous savez comme elle m'aime, et c'est ce qui importe. Aussi vais-je vous raconter ce qui s'est passé. Il s'est passé ceci. Il y a 2 mois, je n'étais pas en bonne santé. C'était un vendredi. La journée était froide, mais dans le ciel bleu, le soleil brillait. Nous avions déjeuné à la maison. Nous nous levions de table quand Henriette s'approcha de moi et m'embrassa. « Mon chéri, tu me laisseras faire un tour ?»« Mais oui. Je voudrais acheter différentes choses. »« Et si je t'accompagnais ?»« Pourquoi pas, mon chéri ?» Puis elle changea de conversation, s'occupa des riens et, prenant un de mes livres, s'assit dans un fauteuil. En manière de plaisanterie, je lui dis « Tu vas l'apprendre par cœur. » En effet, elle ne lit que mes livres et comme ils sont rares, elle les lit et relit. « C'est ce que je voudrais, mon amour. Je suis jalouse de ta pensée. » Je ne compris pas très bien ce qu'elle voulait dire, mais je sentis qu'elle tenait à me faire comprendre que mon travail était pour elle une rivale. Oh, je sais que, même en m'aimant beaucoup, ce n'était pas tout à fait sincère. Elle disait cela parce qu'il est entendu que les femmes doivent être jalouses des occupations de leur mari. Mais je suis indulgent. À quoi bon se formaliser de cela? Il ne faut pas trop demander à une femme. Et puis, ce peu de sincérité, c'est aussi de l'amour. Elle s'était assise de nouveau et elle lisait. Bien qu'elle admirât mes écrits, elle referma le livre avant la fin d'un chapitre, se leva et me dit « Tu es vraiment un type épatant. Tu vois tout. Alors je sors, mon chéri. Ne veux-tu pas que je t'accompagne ?»« Si, si, mais attends, il y a encore quelque chose à la fin de ton livre que je veux relire. Tu sais, l'histoire de la femme infidèle. C'est épatant, ça, tu sais. Tu ne me diras pas que tu n'as pas connu une femme comme celle-là. Tu es folle, ma chérie. Tu sais bien que j'ai toujours mené une vie sérieuse. Quand même, il y a quelque chose de toi dans cette histoire. Tu es un peu comme le mari. » Elle relut donc l'histoire de la femme infidèle. Puis, se levant, elle alla s'habiller sans rien me dire. Elle revint quelques minutes après. « Alors, au revoir, mon chéri. Je serai rentrée vers 6 heures. Sois sage et travaille bien. »« Tu ne veux pas que je t'accompagne ?»« Que tu es drôle. Tu n'es pas bien. Tu me dis toi-même que tu as mal à la tête. Il fait froid aujourd'hui. Tu as un peu de fièvre. Donne-moi ta main. Tiens, tu vois, tu as la main brûlante. » « Oui, mais bien couvert. » « Ce ne serait pas prudent. Un homme comme toi, il faut bien le soigner. » « Tu sais bien que je n'aime pas rester seule, ma chérie. »« Puisque je serai de retour avant 6 heures. » Et elle est partie. Il est évident qu'elle ne voulait pas que je l'accompagnasse. Mais de cela, je n'en tiens aucun compte. Je comprends très bien qu'une femme éprouve le besoin de se trouver seule par moments. Il est même possible que ce soit réellement à cause de ma santé qu'elle n'ait pas voulu que je sorte. Elle pensait peut-être à ma santé, elle n'y pensait peut-être pas. Elle voulait être seule sans raison, elle voulait l'être pour différentes raisons. Et je sais bien que ce n'est pas parce que l'on cache quelque chose que l'on est fautif. Elle pouvait très bien me cacher une visite, un rendez-vous avec une amie, sans pour cela me tromper. Aussi ne tardais-je pas à ne plus penser à elle. Avez-vous remarqué qu'il faut plusieurs heures d'absence pour penser à celle qu'on aime, quand elle vous a quitté d'elle-même, contente, ayant des courses à faire. Je me mis à ma table de travail avec l'intention d'écrire. Ne croyez pas que ce soit un soupçon confus en moi qui m'empêcha de travailler. Je vous assure que je ne pensais pas à elle. Si j'étais incapable de faire quoi que ce fût, c'était plutôt par paresse que par inquiétude. Ce fut alors, pour mon malheur, que, las de mon inaction, je me décidai à sortir. Je me souviendrai toujours de ce radieux après-midi d'hiver. Pas de vent, un ciel bleu qui s'obscurcit avant que les journaux du soir paraissent. Un ciel pur où le soleil semble un intrus. Une poussière blanche qui étonne parce qu'il pleuvait la veille. Je me promenais d'un pas tranquille. C'était une sensation douce de sentir que ma fièvre me permettait de ne pas être pressée. Comme un convalescent, je suivais un boulevard, m'intéressant à des riens. Quand notre vie est paisible, quand tout nous sourit, qu'il est agréable de s'intéresser à des riens. On s'arrête, on regarde. Personne ne fait attention à vous. Ces riens ne nous intéressent pas en réalité. C'est notre âme qui se plaît dans les choses simples, c'est notre âme qui veut retrouver sa jeunesse parce qu'elle est heureuse et qui contemple les petites choses sans raison pour ne pas penser. Quelle joie de vivre ! Et dire que nous luttons pour écarter de nous tout ce qui peut nous empêcher d'aller ainsi, doucement, vers un but quelconque, sans réfléchir, heureux d'entendre des bruits, de sentir des odeurs, de voir la lumière, de toucher des objets. Une horloge sonna. Je ne comptais pas les coups, mais je sentis, à la durée de la sonnerie, qu'il était 4 heures. Ce fut à cet instant, cher monsieur, qu'il se passa une chose horrible. Ayez la bonté de lire attentivement ce qui va suivre. Il faut que je vous dise encore une fois que mon bonheur est entre vos mains. Vous savez bien que c'est une grande responsabilité qu'un bonheur qui dépend de soi. Pensez à l'être qui, dans votre vie, vous a fait souffrir. Pensez qu'à sa place, vous n'eussiez pas agi comme lui. Je ne vous demande pas de faire pour un inconnu ce que vous auriez fait pour un être aimé. Je vous demande simplement de vous efforcer de me comprendre et de me conseiller. Je regardai la devanture d'un magasin. Je la regardai avec cette distraction des gens qui n'ont personne près d'eux pour faire part de ce qu'ils remarquent. Puis je me retournai. C'est maintenant que vous allez apprendre ce qui est arrivé. En l'espace d'une seconde, je vis un taxi passer près de moi et dans ce taxi, mon ami qui embrassait un homme. Vous avez compris ce que je viens de dire. Je vis un taxi et dans ce taxi, mon amie embrassait un homme. Elle masquait l'homme qu'elle embrassait, mais pas assez pour que je ne visse pas qu'il était nu-tête. Je vous jure, sur tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, que j'ai vu mon amie embrassant un homme dans un taxi. Je vous le jure, je les ai vus. Lui se laissait embrasser. C'était elle qui se penchait vers lui. Le taxi est passé à 1 mètre de moi. Je les ai vus. J'en suis certain, absolument certain. Pourquoi dirais-je cela si je ne les avais pas vus? Je me souviens même, aujourd'hui, après 2 mois, de détails d'une précision extraordinaire. Elle était à la gauche de cet homme, et son genou gauche, à elle, était plus haut que l'autre et cachait les jambes de l'homme. Je n'ai pas eu le temps de voir les mains de mon amie. Je ne sais pas où elles étaient. Mais en réfléchissant, j'ai bien l'impression que sa main droite était derrière le dos de son compagnon, tandis que sa main gauche devait le tenir par le cou. Il n'y a pas de doute possible, elle embrassait un homme. J'ai vu la tache claire du chapeau qu'elle avait mise avant de sortir. Je l'ai vue, elle, mon amie, dans ce taxi, et j'ai vu, aussi, un peu de l'homme qu'elle embrassait. Oui, c'était elle. Mais alors, je ne comprends pas. Si elle ne m'aime pas, pourquoi ne me quitte-t-elle pas? C'était elle, je l'ai vue. Je ne pensais pas à elle quand je l'ai vue. Sans quoi, on pourrait se figurer que, me la représentant avec tant de force, j'ai donné son image à la première femme qui m'est apparue. Et maintenant, puisque je vous ai affirmé toute ma certitude, laissez-moi vous dire encore une fois que c'est vrai que je l'ai vue dans ce taxi, que c'était elle. Je suis rentré chez moi bien abattu. Continuellement, j'avais devant les yeux l'intérieur de ce taxi, un peu sombre, éclairé par en face, qui, avec ses coussins, prenait dans mon esprit des aspects d'alcôve. Je m'imaginais même des fleurs dans ce taxi, des fleurs que je n'avais pas vues. Décrire ce que je ressentais est impossible. Il faudrait faire un choix entre 1000 pensées fugitives. Il faudrait vous présenter, cher monsieur, quelques-unes de ces pensées inconsistantes qui, en ma tête, se succédèrent les unes aux autres avec une vertigineuse rapidité. Et si j'étais parvenu à fixer quelques-unes d'entre elles, à les voir séparées des autres, il apparaîtrait, à leur insignifiance, que ma douleur n'était pas si grande que je le prétends. Donc, je ne décrirai pas ma douleur. Peut-on, par des mots, peindre la souffrance? Dans ce récit, je ne le crois pas. Je suis trop désintéressé à ce qui s'est passé. Toute description parfaite de la douleur suppose un effort dont je ne suis pas capable en ce moment. Je ne puis qu'écrire ainsi, juste assez clairement, pour que vous me compreniez. Je suis entré chez moi et je me suis allongé sur un lit. L'immobilité me semblait bien odieuse, mais en m'imposant de me coucher, j'ai voulu me donner la preuve que j'étais encore maître de moi. Jusqu'à ce que mon amie soit arrivée, je n'ai pas cessé de penser à elle. Non, je ne m'étais pas trompé. Si j'avais eu seulement le moindre doute, j'eusse fait mon possible pour l'amplifier, pour qu'il devînt une certitude. Mais même pas l'ombre d'un doute. C'est affreux de se trouver ainsi en face de la réalité. On a beau, par une suite de raisonnements, parvenir à l'oublier, elle reparaît vite, plus vraie que jamais. Je passais ainsi 2 heures interminables à réfléchir, tout en attendant celle que j'aime. Soudain, la porte s'ouvrit. Elle était là. « Je te cherche partout, mon chéri. Pourquoi es-tu ici? Te sens-tu mal? Il fallait te déshabiller et te coucher dans les draps. » Je ne répondis pas. J'étais partagé entre le désir de dire tout ce que j'avais vu, d'un trait, et celui de me taire afin de conserver longtemps la raison d'être triste, afin de prendre un plaisir incompréhensible à entendre mon ami mentir. Je cachai mon trouble sous un mal de tête imaginaire. « Couche-toi dans les draps, mon amour. Si j'avais su que tu étais si malade, je ne serais pas sortie. Je t'aurais soignée. Couche-toi vite. Je vais te préparer quelque chose de chaud, et je vais m'asseoir à côté de toi et je te lirai les journaux. Mais je ne t'ai jamais vue si mal. Qu'as-tu? Veux-tu que j'aille chercher un médecin? » Il ne pourrait pas me guérir. Ce fut d'une voix empreinte de tristesse que je prononçai cette dernière phrase. Elle avait, à mes yeux, un sens différent de celui qu'elle prenait pour mon ami, et, comme toutes ses phrases, il lui fallait un ton désabusé. J'aime ces phrases, et vous allez voir quel usage j'en fis. « Oui, couche-toi vite !»« À quoi bon ?»« Allons, ne te laisse pas abattre. Dès que tu as un petit mal, tu crois que tu vas mourir. » »« Je voudrais bien le croire. » Mon ami, malgré tous mes efforts, ne remarquait pas que mon mal était tout moral. J'aurais voulu qu'elle le vide elle-même pour m'en défendre mollement, pour finir par lui en expliquer la cause, pour qu'elle me rassurât. Mais elle ne s'en aperçut pas. Elle me déshabilla de force, aussi mal que je l'eusse déshabillée, elle. « Maintenant, couche-toi. Ferme les yeux, mon chéri. Je vais t'apporter quelque chose de chaud. » J'obéis. Je sentais que je ne pouvais plus garder en moi ce que j'avais vu. Malgré la certitude que j'avais de l'infidélité de mon ami, je voulais encore croire qu'un modèle la dissiperait. « Henriette, qu'as-tu fait cet après-midi ? » ?»« Des courses qui ne t'intéressent pas, mon petit loup. Je t'ai apporté les journaux. Tu vois que j'ai pensé à toi. » « Mais quelle course ? » ?»« Comme tu es jaloux, Jean !» « Je ne suis pas jaloux, ma chérie. Je m'intéresse à tout ce que tu fais. »« Eh bien, j'ai été chez la modiste. Puis, j'ai été chez Anne. Nous avons fait un tour ensemble. Figure-toi qu'elle a eu mal au cœur. Nous sommes entrés dans un café. Et tu sais, quand j'étais chez la modiste, il y a un vieux bonhomme qui m'a attendu au moins 1 heure à la porte. Si tu l'avais vu, il regardait les chapeaux et ses yeux qu'il me faisait. » Dans le café, ça a été la même chose. 2 jeunes gens ont voulu s'asseoir à notre table. Tu penses comme Anne, qui n'était pas bien, les a reçus. Et si elle avait été bien ? Oh, tu es fou ! Tu vois tout d'une façon déformée. Tu sais bien que je ne parlerai pas à un homme que je ne connais pas. Et tu n'es pas passé rue Saint-Lazare ? En prononçant ces mots, je dévisageai mon ami autant qu'on peut le faire quand on est couché. Ce fut sans une hésitation qu'elle me répondit « Non, pourquoi ?»« Parce que je t'ai vu. »«
Tu m'as vu ?»«
Oui. »« Mais tu es donc sorti ? Ce n'est pas prudent, malade comme tu es. Il fallait me le dire que tu voulais sortir. Nous serions sortis ensemble. »«
Je t'ai vu. »«
Tu te trompes, mon ami. Que voulais-tu que je fisse rue Saint-Lazare ? Je n'ai même pas été dans ce quartier-là. » Tu as rêvé, et cela ne m'étonne pas de toi, petit loup adoré.
Je t'ai vu dans un taxi.
Alors c'est le comble, dans un taxi maintenant. Je te jure que non. Si j'avais pris un taxi, je ne m'en cacherais pas. Et pour quelle raison aurais-je pris un taxi ?
Pour embrasser un homme.
Mon amie, qui remuait une tasse de thé, s'arrêta de le faire. Elle me regarda avec de grands yeux étonnés, où il y avait cette lueur de calme qui précède l'indignation.
« Pour embrasser un homme ?»«
Oui. »«
Mon pauvre Jean, qu'as-tu ? Tu deviens fou, fou, fou. Comment peux-tu penser une telle chose de moi ? Moi, embrasser un autre homme que toi ? Mais tu me prends donc pour une femme de la rue ? Tu es fou, complètement fou. »«
Je t'ai vu. »
« Écoute, Jean, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as la fièvre, tu es tellement jaloux que tu perds la tête. »«
Je t'ai vu. Comprends-tu ce que cela veut dire ? Je t'ai vu, toi, qui es là devant moi. Je t'ai vu embrasser un homme. »«
Tu mens. Je te jure sur la prunelle de tes yeux que je n'ai pas pris de taxi, que je n'ai jamais embrassé un autre homme que toi. »«
Mais je t'ai vu.
Ce n'est pas possible. » Qu'est-ce qui me retient à toi si ce n'est l'amour ? Nous ne sommes pas mariés. Si j'aimais quelqu'un, je serais incapable de jouer une comédie aussi infâme, je serais incapable de me cacher. Tu connais ma nature franche. Si j'aimais quelqu'un, je te le dirai, quitte à te faire souffrir, mais je te le dirai. Tu n'as pas pu me voir, c'est impossible, je ne suis qu'à toi.
Je t'ai vu.
Tu as peut-être vu quelqu'un qui me ressemblait.
J'attendais cette repartie depuis plusieurs minutes, et pourtant, je ne sus pas y répondre sur le champ, je la craignais. Je savais que, seule, elle était capable de me faire douter de mes yeux, sans toutefois m'apporter la preuve de l'innocence de mon ami.
Vous, cher monsieur, vous penserez peut-être, comme l'ont pensé mes amis, que j'ai été la victime d'une ressemblance. Quand il s'agit de consoler quelqu'un, on trouve toujours des paroles auxquelles soi-même on ne croirait pas. Prétendre que j'ai été victime d'une ressemblance est une de ces paroles. Laissez-moi vous dire, cher monsieur, que j'ai reconnu mon ami, non seulement à ses habits, mais à sa nuque, à la couleur de ses cheveux, à elle.
C'est toi que j'ai vu dans le taxi.
Ce n'est pas moi. Je t'ai donné l'emploi exact de mon temps. Tu peux demander à Anne si je n'ai pas passé l'après-midi avec elle. Tu peux venir avec moi chez la maudisse, dans le café où nous étions, quand elle a eu mal au cœur. Tu demanderas au garçon, si c'est le même, ce que nous avons bu. Je ne peux mieux faire, mon Jean, pour te prouver que je te suis fidèle. Je sais bien que je me serais perdu dans la recherche de l'emploi du temps de mon ami. J'aurais en effet vu un garçon qui m'aurait dit « Il me semble que j'ai servi ces deux dames, ou qui ne se souviendraient pas. Mon ami m'aurait montré la table où elle s'était assise. Mais que cela m'aurait-il prouvé ? Il n'en demeurait pas moins certain que je l'avais vue dans ce taxi embrassant un homme. Si encore elle m'avait dit « Oui, j'ai pris un taxi avec Anne, et là je l'ai embrassée. » Cela je l'aurais cru. Je n'ai pas eu assez de temps pour voir la personne qui accompagnait mon ami et pour affirmer que c'était un homme. Mais le fait de nier avec tant d'obstination qu'elle avait pris un taxi me montre bien qu'elle m'a trompé.
Je t'ai vu.
Écoute-moi, Jean, je te jure sur notre amour, sur ta vie, sur la tête de mes parents, que je n'ai pas pris de taxi, que je ne te trompe pas, que je t'aime plus que tout au monde, plus que ma famille, que je suis prête à faire tout ce que tu me diras, que je suis ton esclave et ta femme. Je te jure, mon amour, que si tu venais à mourir demain, je ne pourrais pas te survivre. Tu es ma seule joie en ce monde. Je ne vis que pour toi et que par toi. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois, je ne baisse pas les paupières. Crois-tu, si j'avais fait ce que tu dis, que sous ton regard, je ne mourrais pas de honte ? Cher monsieur, j'ai fini par croire mon ami. J'ai fini par la croire, mais malgré tout, j'ai toujours conservé en moi un doute. C'est ce doute que je vous demande de chasser. Je vous ai répété textuellement les paroles de celle que j'aime toujours. Je vous ai encore raconté que, bien que j'ai fini par croire mon ami, je suis toujours certain de l'avoir vu dans le taxi. Il me semble que rien ne pourra m'enlever cette certitude. Et pourtant, Henriette m'aime tant, elle est si franche. Laissez-moi vous dire aussi que, si vous aviez été à ma place, vous eussiez certainement reconnu mon ami. Vous l'eussiez reconnu comme je l'ai fait. Aussi, est-ce inutile de me dire que j'ai peut-être mal vu. Avant de vous prononcer, vous pensez sans doute qu'il serait nécessaire de mieux connaître mon ami. Ce n'est pas la peine. Vous la connaissez. Elle est incapable de faire quelque chose en cachette. Elle-même. Vous avez pu vous en rendre compte. Ne pensez pas que je suis aveuglée par l'amour. Elle est bien telle que je vous l'ai présentée. Et aussi sûr suis-je de l'avoir vue embrasser quelqu'un, aussi sûr suis-je de son parfait amour. J'attends de vous, cher monsieur, une lettre qui me fera connaître la vérité. Si vous n'êtes pas sensible à ma douleur, vous me répondrez peut-être avec indifférence. Sachez que je vous lirai avec la même attention, car j'aurai l'espoir de trouver quand même dans vos paroles le mot qui m'apportera la paix.